L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. On est tous et toutes complètement ensevelis par de l'information, que ce soit les chaînes d'information, que ce soit les commentateurs en tout genre, que ce soit les commentaires évidemment sur les réseaux sociaux. On ne sait plus où donner de la tête et en réalité, c'est l'opinion qui fait l'information et plus du tout la réalité scientifique. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nicolas Truong. Nicolas, c'est un grand reporter, il dirige la section Idées et Débats au Monde, il est le responsable du Théâtre des Idées. Et ensemble, on va parler de cette société du commentaire, parce que c'est le nom de son ouvrage, La Société du Commentaire, qui est sorti aux éditions de l'Aube. Et vous allez voir, on va parler du commentaire, mais on va aussi parler de la manière dont l'extrême droite s'en est emparée et comment l'extrême droite a réussi à s'immiscer complètement dans le débat en France et à se normaliser à travers cette société du commentaire. Une discussion évidemment qui est hyper intéressante. Nicolas, il est passionné. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Grégory.
On va parler ensemble de la société du commentaire. Et j'ai lu cette phrase dans votre livre qui est « Ce n'est pas l'actualité qui fait le commentaire, mais le commentaire qui fait l'actualité ». Et je trouvais ça extrêmement pertinent. Et je me suis dit qu'on allait commencer par là. Peut-être que la question c'est comment on en est arrivé à cette situation où effectivement le commentaire fait l'actualité ?
Parce qu'on est arrivé dans une société que j'appelle la société du commentaire qui, au fond, sature le commentaire et l'interprétation, qui prend une place tellement importante qu'elle remplace presque en fait la réalité, l'événement, le fait qu'elle est censée commenter. C'est-à-dire que le commentaire, c'est une interprétation, c'est une explication, parfois même avant une exégèse, une lecture d'un texte ou d'une actualité. Et ce que j'ai appelé, moi, le commentariat, c'est un système de représentation et d'intervention médiatique sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télé, les chaînes d'info, les radios, au sein duquel les commentaires parvenus à un certain stade en fait, d'autonomisation informent la réalité dont ils modifient la perception. Et ce qui fait qu'au fond, eh bien, ce dont le commentaire, ou moi ce que j'appelle le commentariat, ne parle pas, c'est comme si ça n'existait pas d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'au fond, ça fait exister. Ça ne veut pas dire qu'il invente la réalité ou l'actualité. Je dis qu'il fait l'actualité. Ça fait exister un fait plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que je prends un exemple, mais il y en a tous les jours, d'un fait divers qui s'était passé en 2019. Et je sais qu'il y avait des confrères du Nouvel Observateur, enfin de l'Obs, qui avaient relevé ce fait-là. Il y avait une polémique autour d'une accompagnatrice voilée dans une institution. Et ça fait une polémique. Je crois qu'il y avait eu plus de 80 débats en deux semaines. Enfin, je note ça quelque part. Alors que on ne parlait pas d'un fait qui me semblait peut-être plus intéressant, plus important, surtout et plus grave aussi, qu'il y avait la même année, en 2019, 733 morts dans un accident du travail, c'est-à-dire à peu près deux par semaine, ce qui me semble effectivement, qui me semblait peut-être être un sujet sur lequel on pouvait mettre le focus, mettre la focale. Et c'est en ce sens-là que le commentaire, en fait, qui est censé lui-même normalement expliquer l'actualité, devient lui-même en fait l'actualité. Non pas qu'ils l'inventent, parce que souvent quand même, même si ça existe, qu'il y ait des fake news, de pures inventions, mais ça grossit effectivement un trait, un fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comment dire, le sociologue Pierre Bourdieu disait qu'au fond, ces faits divers font parfois, sont des faits qui font diversion, parce que, non pas qu'ils n'existent pas, mais effectivement, ils permettent de focaliser en fait sur un sujet et d'en oublier les autres d'une certaine manière. Donc c'est en ce sens-là que le commentaire est capable de faire l'actualité, non pas où il la construirait ou il l'inventerait. Je ne dis pas ça, c'est pas du tout une critique complotiste que je mène du commentariat, de la société du commentaire. Mais voilà, mais c'est une critique qui se veut peut-être un peu éclairée par ce qu'on appelle un peu la philosophie des Lumières et qui est aussi la pensée critique qui nous permet de voir effectivement comment du coup on fait exister en fait quelque chose qui existe mais qui n'a pas l'importance qu'on lui donne.
Ça me fait un peu penser à la stratégie que Trump a mis en place la stratégie de Bannon finalement qui était voilà, le conseiller de Trump qui était en anglais c'est flood with shit, mais en gros c'est balance un maximum de trucs sur les réseaux sociaux pour finalement cacher parce qu'en fait les gens sont tellement occupés du coup à commenter tout ce que tu racontes qui est complètement stupide que les vraies actions on les voit plus à l'intérieur de ça. Et en même temps, il étend la fenêtre d'Overton quand il fait ça. C'est-à-dire que quand il raconte n'importe quoi ou quand il raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux, les vraies décisions qu'il prenait, on les voyait plus. Et c'est sans doute comme ça qu'il a réussi à modifier des choses qui étaient fondamentales. Et on n'arrivait plus. En fait, il y avait tellement de trucs complètement débiles qu'on n'arrivait plus à voir qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était plus important. En fait, parce qu'en fait, ça a généré énormément de commentaires.
C'est très juste, c'est parce que aussi la mouvance néo-réactionnaire, national-populiste, identitaire ou de droite extrême, c'est parfaitement incrusté dans la société du commentaire. Elle l'a même, au fond, elle en a pris aussi les commandes financières, économiques. C'était le cas avec Donald Trump, avant qu'il n'accède au pouvoir, à travers des émissions, d'abord de radio, en fait. On a beaucoup parlé de la télé pour Trump, mais aussi, bien sûr, les réseaux sociaux, mais des émissions de radio aux heures de grande écoute. Ce qu'on peut parfois observer sur certaines chaînes, d'ailleurs, en fait, en France aussi, puisque cette galaxie-là, cette mouvance a parfaitement compris et appris des leçons de Trump, de Bolsonaro, même s'ils sont aujourd'hui destitués tout en étant dans une forme de réticence, voire de résistance dont on a vu les effets à Brasilia ou au Capitole ces derniers temps. En effet, ils arrivent à faire exister, à surexposer en fait ces faits-là. Et d'ailleurs, je crois que je me suis en effet trompé, c'est encore plus grave que ça, puisque donc il y a eu 85 débats qui ont été montés par les chaînes info en octobre 2019 sur cette accompagnatrice voilée qui avait été pointée du doigt par un élu du Rassemblement National. Et donc 733 salariés en effet qui étaient morts dans un accident du travail, c'est-à-dire en effet, oui, deux par jour qui sont relayés au second plan. Donc effectivement, là où vous avez raison, c'est que il y a des techniques aussi. C'est pas simplement parce que il y a des affects, on en parlera sans doute, qui fait que ça prend tout ça. Pourquoi ça prend? Parce que c'est pas, voilà, on n'est pas non plus. Il y a des raisons qui expliquent ça profondes. Enfin, je veux dire, dans notre psyché, dans notre psychologie collective, oui, il y a des manières d'imposer des problématiques de la même manière que, vous le savez très bien, Grégory, il y a des manières de poser des questions ouvertes ou fermées. Et là, nous sommes dans votre studio, dans lequel on peut voir une très belle et je dirais même surtout très forte affiche d'un concert que Nina Simone a donné à New York en 1961. Puisque je lis cette affiche, on voit son regard saisissant. Avec un titre magnifique qui s'appelle « I got my love », dans lequel elle dit qu'elle n'a pas grand-chose, qu'elle n'a pas de bien, mais qu'elle a ses cheveux, ses yeux, et bref, qu'il lui reste sa liberté. Si vous me dites, n'est-ce pas que Nina Simone, c'est bien ? C'est pas tout à fait pareil que vous dire, est-ce que vous appréciez la musique et les... C'est pas tout à fait la même chose. N'est-ce pas que, évidemment, induit quelque chose ? Donc, au fond, je dirais que les impositions de problématiques dans l'espace public fonctionnent de la même manière. Et si je vous dis, n'est-ce pas que c'est bon, là, ce que je t'ai fait à manger ? Évidemment, voilà, on se sent un peu obligé de répondre à la question qui s'imposera. Et oui, c'était très bon, même si nous n'avons pas déjeuné ensemble. J'imagine que ça serait très bon. Bref, ça fonctionne dans l'espace public à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'on fait manière de poser des questions. Moi, j'avais relevé, par exemple, mais à l'époque où je m'étais penché sur cette question plus particulièrement pour commencer cet essai, il y avait... je me souviens que Greta Thunberg n'était pas très appréciée au fond des commentateurs, notamment sur les chaînes info, les éditorialistes, comme on dit, n'était pas très sensible à cette génération dite radicale, donneuse de leçons à propos de l'écologie, etc. À mon avis, c'est une génération intéressante qui fait précisément ce que Margaret Mead appelait dans le fossé des générations, une sorte d'inversion de la transformation.